Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Kirikou et la sorcière de Michel Ossolo, sorti en 1998, est aujourd'hui un classique incontournable du cinéma d'animation. C'est un film que tout enfant a vu et dont tout adulte se rappelle avec émerveillement. Une histoire simple, ancrée dans une culture et une tradition entièrement respectées, et surtout un dessin qui allie délicatesse et clarté entre le théâtre d'ombre et l'animation plus traditionnelle. C'est aussi un vrai succès commercial, avec autour d'1 400 000 entrées en France et une distribution internationale d'envergure. C'est un film qui fait date, tant par son contenu que par l'influence qu'il a eue sur l'animation française, montrant qu'un long métrage d'animation pouvait générer des revenus conséquents, ouvrant la voie à d'autres projets à succès, comme les Triplettes de Belleville en 2003 et Persepolis en 2007. Pourtant, si Kirikou et la sorcière s'imposent aujourd'hui comme une référence, le projet a bien failli ne pas aboutir, du moins sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Dans cette émission, le troisième temps de La Voix Nue de Michel Ossolo au micro de Corinne Renoux-Nativelle, diffusé pour la première fois le 25 mai 2016, le réalisateur raconte l'histoire chaotique de la production de Kirikou et la sorcière. D'une équipe d'animateurs éparpillée à travers l'Europe pour des raisons financières, à une lutte de tout instant pour la liberté artistique, c'est le récit des coulisses de l'une des plus belles réussites du cinéma d'animation français, auquel se livre Michel Ossolo, dans un témoignage qui intrigue autant qu'il consterne.
À voix nue. Toute cette semaine, Corinne Renoux-Nativelle rencontre Michel Ossolo. Ce soir, je suis Kirikou.
Bonsoir Michel Ossolo.
Bonsoir Corinne.
Nous vous retrouvons ce soir dans votre appartement parisien avec une magnifique vue sur les toits de Paris. Mais après des années de chômage...
Est-ce que je peux vous interrompre à chômage?
Je vous écoute.
C'est vrai, mais je ne voudrais pas avoir l'air d'avoir été malheureux tout le temps avant la grande date de Kirikou. Ça a été pénible, mais j'ai aussi eu une vie d'artiste qui, de temps en temps, arrivait à faire quelque chose. De loin en loin, je suis arrivé à faire des courts-métrages. Et ces courts-métrages étaient reconnus par la profession et passés dans des festivals. C'était une époque où l'animation était inconnue, mais il y avait des festivals et des cinglés comme moi qui se retrouvaient, qui se parlaient, qui voyaient qu'ils n'étaient pas seuls. Et j'étais passionné par le festival d'Annecy, spécialisé dans l'animation, puis plus tard à Zagreb, Hiroshima et aussi plus tard encore Ottawa. Et j'avais au moins une vie intense, une semaine par an, mais très intense. Et j'avais des prix, ça faisait plaisir. Et je montais sur la scène et on applaudissait, ça faisait plaisir. Et puis, je faisais partie d'une association internationale du cinéma d'animation. Et puis, un jour, on m'a élu président au suffrage universel. Donc, au fond de ma cour, j'étais fameux. Et j'avais quand même du plaisir. Voilà, maintenant, vous pouvez continuer votre phrase.
Merci, Michel Ossolo. Donc, je disais qu'après des années de chômage, en décembre 98, Kirikou, un bébé africain qui s'est sorti seul du ventre de sa mère, nu, débrouillard, qui parle et qui court vite, apparaît sur les écrans. Et c'est le succès pour vous, enfin. Au début des années 90, quelques années avant, le producteur Didier Brunner vous avait dit d'arrêter la télévision pour tenter votre chance au cinéma. Vous n'y avez donc pas pensé avant ?
J'y ai pensé, mais pas très fort. Et j'avais des projets dans mes dossiers. Mais en fait, j'étais passionné par les films courts. Et l'animation, c'est de la bijouterie. C'est quelque chose qu'on fait petit à petit, image par image, et c'est plutôt des bijoux que des semi-remorques. Si le bijou ne pèse pas 3 tonnes, c'est pas grave. Et ça ne se mesure pas au poids. Et mes meilleurs souvenirs de spectateurs, c'est des courts-métrages. Donc j'avais ça dans la tête et je pensais plutôt bijoux que semi-remorques. Mais j'avais écrit des longs-métrages que j'avais proposés à la société AAA, mais ça ne les avait pas intéressés. J'ai dû le proposer à d'autres qui n'ont pas réagi et j'ai pas vraiment cherché à les faire. Mais les projets étaient prêts et j'avais quelque chose de prêt quand on me l'a demandé. Et à l'époque, les Français faisaient très rarement des longs métrages d'animation. C'était de loin en loin et ça passait relativement inaperçu. Donc dans ma tête, je n'y pensais pas tant que ça, même si j'ai écrit, j'avais 3 projets quand même. Mais Didier Brunner, un autre producteur qui m'a fait du bien, a eu raison de me dire « écris-moi un long métrage ». J'avais rien d'autre à faire, je l'ai fait volontiers. J'ai feuilleté mes projets. Il y en avait 2 qui m'intéressaient, un opéra baroque et énorme, insolent, cher, et une petite histoire sympathique, humaine, qui était beaucoup plus moi. L'opéra, c'était pour épater la galerie, et le petit enfant, c'était tout le sentiment auquel je crois. Et puis, il faut aussi penser au fric. Il était bien moins cher que l'opéra. Donc, j'ai pris l'histoire qui me plaisait. J'ai rajouté une seconde fin, parce que j'avais déjà écrit une histoire cohérente, mais qui était bancale. Elle était trop longue pour un court-métrage, trop courte pour un long. J'ai été obligé de rajouter une fin, une seconde fin. Il y avait une première fin et une seconde fin. La première fin, on arrivait à un couple idéal qui s'embrassait, qui s'étreignait, non, qui s'étreignait plutôt qu'embrassait. Et c'était la fin, une fin heureuse, un couple idéal qui s'étreint avec un pardon absolu. Le garçon épousait la femme qui avait mangé son père. Mais c'était trop court et j'ai dû faire travailler mes rouages dans ma boîte crânienne. Et j'ai pensé au retour au village qui a rajouté quelque chose de très intéressant, qui est aussi un côté humain, la méchanceté des gens une fois qu'ils n'ont plus peur. Et aussi une chose positive dont je vais un peu parler quand on parlera de l'histoire, l'amour qui résout tout. Voilà, tout ça je l'ai écrit en une semaine, je l'ai donné et ça allait bien, ça plaisait au producteur. Et c'est après que les choses se compliquent. Le producteur a du mal à trouver de l'argent parce que personne ne croit en un long métrage d'animation français. Donc, il met 2 ans à trouver l'argent. Pendant ce temps, je travaille le projet, je prépare les modèles, le storyboard. On peut dire aussi scénarimage en français, ce qui est très bien parce qu'on comprend. Et storyboard, on comprend pas vraiment qu'il y ait des images, même si on parle anglais. Mais c'est quand même un terme qui est très utilisé et partout dans le monde. Donc, tantôt je dis scénarimage et tantôt je dis storyboard. Je commençais les storyboards. Je faisais aussi ce que j'appelle depuis les images manquées, c'est-à-dire des belles images en couleur qui sont faites pour intéresser les gens et qui nous donnent des sous. Ensuite, il a trouvé de l'argent, plusieurs producteurs, du travail dans plusieurs pays, ce qui est très ennuyeux. Parce que finalement, j'ai fait le film, je devais être en même temps à Paris, à Angoulême, hein, aide de la région, à Bruxelles, aide de la Belgique, à Luxembourg, aide de Luxembourg, et à Budapest et Riga, c'est-à-dire, ça, c'est pas de l'aide, mais c'est de l'animation pas chère.
D'accord, c'est pour des raisons de budget que, vous, que le, la production, la fabrication oui. du film de Kirikou est éclatée, Michel Osso, c'est pour ça
oui,
que...
Oui, c'est, tout ça, c'est des questions de finances. Là où on nous donne de l'argent, je dois donner du travail. Et pour l'animation qui est chère, on cherche un endroit où ce n'est pas cher. Et sans aller jusqu'en Extrême-Orient où c'est encore moins cher, on est allé dans les pays qui étaient de l'Est, qui appartenaient il y a très peu de temps auparavant au bloc communiste. Et c'était une vie très difficile parce que je m'épuisais en voyage, en valise, en bus, en avion, en train, en transport de papier, parce que ça se faisait sur le papier, au lieu d'être concentré sur un seul endroit. Mmh. En aussi traduction. Parce que je ne parle pas hongrois, je ne parle pas letton, j'en suis désolé, et ça compliquait les choses. Mmh. Voilà, alors maintenant, les problèmes arrivent. Dans les coproducteurs, il y en a qui ont une sorte de coup de foudre négatif pour moi, et petit à petit, tout le monde se met à critiquer ce que je veux. Et tous les éléments du film ont été critiqués et combattus. Bon, on a commencé par me dire « l'Afrique, c'est pas vendeur ». Bon, mais l'Afrique, c'était là où ça se passait. Le titre est trop simple. Mes dessins ne sont pas animables. Le dialogue aussi n'est pas assez africain. Mon storyboard est débile. L'idée d'enregistrer les dialogues en Afrique est mauvaise, le public n'aime pas les accents, ne comprendra rien et il faudrait sous-titrer. La musique faite en Afrique, non, un compositeur spécialisé à Paris le ferait aussi bien, la musique n'a pas de couleur.
Et les seins des femmes.
Oui, il ne fallait pas oublier ça. C'est le front le plus important. Petit à petit, l'obsession des seins.
Est-ce que vous pouvez revenir, Michel Osso, sur la façon dont, à différents stades de votre entreprise, on...
je vais développer les seins. Au début, je montre les images et le premier producteur ne dit rien. Mais petit à petit, tout le monde dit on ne peut pas montrer les seins. Et on a plus parlé des seins des dames que du zizi du héros. Mais on aurait bien aimé aussi que je mette une culotte à Kirikou. Mais l'obsession est passée par les seins. C'est de ça qu'on a surtout parlé. Peut-être qu'on n'osait pas parler du pénis du héros, mais je ne sais pas. Et tous les gens qui me disaient « tu dois cacher les seins », ils ajoutaient tous, sans exception, « moi, évidemment, ça ne me gêne pas ». Et c'est extrêmement malsain, cette attitude. « Moi, ça ne me gêne pas, mais tu dois mettre des soutiens-gorge ». C'est arrivé à un degré effrayant. Aux deux tiers de la fabrication, on a montré ceux qui avaient été animés à l'homme de la télévision dont nous dépendions pour finir le film, qui avait l'argent. Après une discussion sur saint or note saint, notre interlocuteur a dit « Je comprends tout à fait votre position, je la partage, mais je suis payé pour faire des films qui sortent et pas des films qui restent sur une étagère. Et voici le choix que vous avez. Ou vous mettez du soutien-gorge et vous finissez le film, ou vous ne faites pas le film. »
Et là, Michel Osso, vous allez être sauvé par un changement.
D'abord, je ne suis pas sauvé, je suis catastrophé. Je suis insulté par les producteurs. On te l'avait dit, tu n'es pas professionnel, tu nous fais faire faillite. Et je ne savais pas quoi faire, parce que mettre des soutiens-gorge à ces femmes que j'ai connues quand j'étais petit, et qui étaient belles, ou qui étaient vieilles, et on était conscient de la vieillesse, voilà. Pour moi, mettre des soutiens-gorge à ces femmes, c'était obscène. C'était une insulte à l'Afrique pure que j'ai connue, l'Afrique bienveillante, qui ne m'a fait que du bien, des gens harmonieux. C'était aussi une insulte à ma mère. Elle allaitait mon petit frère sans se cacher, sans s'exhiber, sans se cacher, que ce soit en Afrique ou en Europe. Elle s'attendait au respect, elle l'avait. Et pour moi, je ne pouvais pas mettre, je ne pouvais pas salir cette image physique et pure. Je ne pouvais pas mettre une culotte au nouveau-né, ni des soutiens-gorge à des dames qui étaient habillées normalement. Elles avaient un pagne, elles avaient une coiffure très travaillée. Et quand Caraba leur piquait pas leurs bijoux, elles avaient aussi des colliers. Et d'un autre côté, être pur et dur et dire, eh bien non, je ne le fais pas, je faisais faire réellement faillite à des producteurs, je faisais faire faillite à moi-même, et je donnais raison aux gens qui disaient « Les Français, ils peuvent pas faire un long métrage en animation. » Et je m'en suis sorti pas par mon mérite, bon, un petit peu, parce que j'ai quand même, pendant des années, et tous les jours, résisté au soutien-gorge. Mais je m'en suis sorti là, grâce à un mauvais scénario, un deus ex machina, l'homme qui pensait de son devoir de refuser l'image que j'avais établie, a été renvoyé, parce qu'il avait fait, il avait produit un film très violent que la télévision qu'il avait produit ne montrait pas. Et le suivant que j'ai eu du mal à voir, mais de faux numéro en faux numéro, je l'ai eu. On a discuté longtemps et il a fini par dire « Faites le film comme vous l'entendez. » Et ensuite, j'ai dit aux divers producteurs « Maintenant, ne me demandez plus rien, je fais ce que je dois faire. » Bon, ils ont aussi réagi très mal et j'ai fait le film comme je l'entendais. Je n'ai cédé sur rien. Mais absolument rien. Et
on vous a demandé également de foncer les peaux, d'éclaircir les peaux, pardon, Michel Oslo.
Oui, j'avais oublié ça. Quand on m'a demandé d'éclaircir les peaux, je les ai foncées. Parce que c'était une bonne idée. Si je célèbre l'Afrique avec des gens qui ont une peau sombre, c'est magnifique, ça va être magnifique, et il est absurde de pas célébrer cette image-là. Ça va être beau, je vais faire des décors très colorés, et ça va bien ressortir. Et voilà, et ça aussi, il y a aussi que, d'une certaine manière, on a, au bout d'un moment, accepté des demandes qu'on pouvait continuer à refuser. Ils pouvaient me dire « mets des soutiens-gorge » autant qu'ils voulaient. C'est moi qui allais voir dans les pays de l'Est les animateurs. Et c'est les animateurs, ils ne connaissaient que moi. Ils m'aimaient et ils faisaient ce que je leur demandais. Et ils me voyaient travailler à leur côté. Je me rappelle la révélation d'une animatrice qui travaillait très bien. Et quand j'étais à Riga, j'ai resté une semaine. Je travaillais beaucoup, tard. En début d'après-midi, j'allais dans le jardin, j'en m'enroulais dans une couverture et je dormais. Et puis je revenais et je durais jusqu'à 1h du matin. Il y en avait qui partaient, d'autres qui restaient. Et une animatrice m'a dit « On vous aime ». Mais si vous restiez une semaine de plus, on vous tuerait.
Ah bon, mon Dieu.
Mais c'était dit avec affection. Et donc, tous ces gens-là m'aimaient et tout ce que je leur demandais, ils le faisaient. Et ils recommençaient autant de fois que j'ai voulu. Oui, et donc, une chose qu'ils ont acceptée, ils ont accepté la musique en Afrique. S'ils n'avaient pas accepté, j'aurais pas pu le faire. Ils ont accepté les Youssou N'Dour et ils ont accepté les dialogues enregistrés en Afrique, c'est-à-dire des francophones qui parlent très bien la langue, mais avec le petit parfum de l'accent qui change tout. Mais tout le monde a adoré ça. Bref, j'ai résisté à tout et nous avons gagné.
Et après Flaubert qui a dit « Madame Bovary, c'est moi », Michel Oslo, vous vous avez dit à votre tour « Kirikou, c'est moi ».
Oui, c'est évident.
En quoi vous ressemblez-t-il ?
Kirikou, c'est moi en beaucoup mieux.
Oui.
Je suis aussi un peu la mère et un peu le grand-père.
D'accord.
Je ne suis pas Caraba parce que je n'ai pas besoin de me venger, mais peut-être qu'on ne m'a pas fait autant souffrir que Caraba. Mais maintenant qu'on a parler du tournage, on va parler de la sortie, parce que la sortie est un conte de fées. Le film est terminé, mais une fois qu'il est terminé, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut un distributeur. La distribution est une chose très importante qu'on n'imagine pas vraiment. Il faut que quelqu'un trouve où montrer le film, qui va montrer le film, qui va accepter de montrer le film, combien d'argent on va mettre dans la publicité, dans quelle région de France on va plutôt être. Et quand on a terminé le film, les gros distributeurs ont dit oh, « ça ne nous intéresse pas, c'est un long métrage d'animation français, on n'en a rien à faire ». Et c'est un petit distributeur de Lyon, qui n'est plus petit, Marc Bonny, qui a dit « Oui, je veux distribuer ce film. Je connais déjà le travail de Michel Oslo, je connais ses films en silhouette. Et après Kirikou, j'ai l'intention aussi de sortir ses films en silhouette pour surfer sur le succès que Kirikou va avoir. »
Anticipé.
Alors, ce qui est... là où ça devient remarquable, c'est qu'il avait peu d'argent, qu'il n'y avait pas de quoi avoir une distribution normale. Ce film est sorti sans annonce presse, sans bonne annonce et sans affiche dans les rues.
Et en même temps que Mulan de Disney et Le Prince d'Égypte de DreamWorks.
Oui. Alors, la sortie... Donc, Marc Bonny connaissait le territoire. Il a invité des directeurs de salle qui pouvaient répondre favorablement à ce qu'il leur proposait. Je les ai rencontrés, on s'est réunis, il a montré le film et il a expliqué. Il n'y a pas le budget pour faire une sortie normale. C'est un film de bouche à oreille. Ça veut dire que vous devez avoir le courage de le garder, même s'il ne semble pas avoir de succès. Et c'est comme ça que le bouche à oreille se fera. Ils ont dit oui. Ils l'ont fait. On est sorti le même jour que le film de Disney, mais je le voulais. D'abord, ce film devait sortir quelque part en février.
D'accord, et là on est en décembre 98.
Mon collègue que j'estime et ami, Jean-François Leguioni, devait sortir en décembre et j'ai appris qu'il n'était pas prêt. Et j'ai dit au producteur, nous allons terminer le film plusieurs mois plus tôt que prévu pour prendre cette place. C'est maintenant qu'il faut sortir et on n'a pas peur de Disney. Ça, je tiens à le dire.
Disney qui inonde les écrans avec Mulan.
Oui, Kirikou est sorti avec 60 copies et Mulan est sorti avec 600 copies. Et petit à petit, la mayonnaise a pris. Les petits cinémas ont tenu le coup et le public a fait de la publicité. Chaque semaine, il y avait plus de monde. Chaque semaine, on sentait le succès qui montait. À mesure que les rentrées apportaient de l'argent aux distributeurs, au lieu de payer des affiches ou des annonces presse, ils payaient une nouvelle copie. C'était encore des supports films. Et il y a eu 61 copies, et 62, et 63, et 64. Je crois qu'on est arrivé jusqu'à une centaine. Et toutes les salles étaient pleines. Et dans la profession, on sait tout. Il y a des chiffres partout, et on savait que Mulan faisait un chiffre énorme comme d'habitude, mais un chiffre énorme parce que à peu près tous les cinémas de la ville montraient Mulan. Mais on savait aussi que les salles étaient à moitié vides et que pour Kirikou, on refusait du monde. Donc, d'autres directeurs de salles réclamaient Kirikou. Et c'était très beau. C'est arrivé petit à petit et j'ai senti que le pays aimait Kirikou.
Jusqu'à faire venir dans les salles 1,5 million de spectateurs.
Oui, 1,5 million de spectateurs, ce qui a ahuri tout le monde. Je dois dire aussi que les journalistes sont venus me voir, bien que j'ai été français. Et il n'y a pas eu une seule fausse note. Et alors, qu'il n'y ait pas eu de culotte ni soutien-gorge, personne n'en a parlé. Mais personne.
Alors que ça avait pris tellement de place en amont.
Voilà. Donc ça, c'est une histoire que j'aime bien raconter. C'est extraordinaire. Et quand je la raconte à l'étranger, on me dit « tu as de la chance d'être français ». Chez nous, un truc comme ça ne pourrait pas se passer. Qu'on trouve dans le territoire des salles qui acceptent de passer un film sans publicité et qui acceptent de tenir le coup et que ça marche. C'est extraordinaire. Depuis ce temps-là, je suis plutôt francophile. Parce que j'ai aussi fait un petit tour de France pour accompagner le film. Parce que j'étais là, il fallait que je sois utile. Et j'ai montré ce film un peu partout et dans des villes prestigieuses comme Saint-Jean-de-Luz, où on a bien mangé, où j'ai visité la ville qui est magnifique. Et puis une petite ville dans le nord, ex-ville minière qui survive malgré tout, mais qui avait aussi la fierté de la culture, qui avait son centre Pompidou à elle. Mais c'était émouvant.
Il succès dépasse le cadre de la France.
Oui, alors maintenant on passe à l'étranger. Tous les pays du monde l'ont acheté. Tous les pays qui pouvaient acheter un film l'ont acheté. Le nombre de langues que Kirikou parle aujourd'hui, je ne le connais pas. Mais j'ai fait un montage d'une vingtaine de langues que j'avais. Et c'est hilarant parce que Kirikou dit « je m'appelle Kirikou » en 20 langues. Et cette simple phrase, c'est tordant.
À entendre ça dans toutes ces langues. Michel Oslo, vous n'envisagez pas une suite pour ce Kirikou?
Ah oui.
Et pourtant, vous allez en sortir deux autres. Kirikou et les bêtes sauvages en 2005 et Kirikou et les hommes et les femmes en 2012.
Alors, avec le succès, on m'a dit, bon, évidemment, tu vas faire un Kirikou 2. Mais j'avais même pas besoin de dire non. Je haussais les épaules. Je ne mange pas de ce pain-là. J'ai fait Kirikou et sorcière, ça suffit. Je ne ferai pas de Kirikou 2, un point, c'est tout. Bon, ne m'en parlez pas, c'est pas la peine. Je l'ai dit pendant 1 an, j'ai dit pendant 2 ans, j'ai dit pendant 3 ans, j'ai dit pendant 4 ans, j'ai dit pendant 5 ans. Et puis, ensuite, j'ai dit oui. Parce que c'est les gens qui me le demandaient. C'est des familles qui me le demandaient. C'est des Noirs qui me le demandaient. Des Noirs d'Afrique, des Noirs d'Europe et des Noirs d'Amérique. Parce que c'est sorti petitement et il y a des Américains Noirs qui sont venus me voir. Et des gens qui me disaient « Mais tu n'as pas le droit d'arrêter. » Donc, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas dire non. Et puis je disais aux gens, mais me demandez pas une suite, c'est pas possible. À la fin de Kirikou la sorcière, il est grand, il est habillé, il est marié. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors j'ai fait des souvenirs d'enfance.
À ce rythme d'un Kirikou tous les 7 ans, Michel Oslo, un quatrième est-il envisageable pour 2019?
Non, je ne veux pas! Alors, mais Kirikou est plus fort que moi. Moi, je dis non, il n'y en aura pas. On verra ce qui se passe. Mais pour moi, c'est non. Non, non, j'ai d'autres histoires à raconter. Et quand même, Kirikou, que j'appelle d'appeler Kirikou 2 et Kirikou 3, c'est pour les aficionados. C'est un post-scriptum pour les amoureux. Mais c'est le vrai film, c'est Kirikou et la sorcière. Et mon prochain film, ça sera un vrai film.
Merci beaucoup, Michel Oslo.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Corinne Renoux-Nativelle avec Michel Oslo. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Philippe Etienne, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr.
C'était le troisième temps de La Voix Nue de Michel Oslo, au micro de Corinne Renoux-Nativelle, diffusé pour la première fois le 25 mai 2016 et réalisé par Anne-Pascale Desvignes. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.